Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval, à Québec, au Québec, le vrai Jean-François Sénéchal qui vous parle parce que vous avez entendu au dernier épisode, là, c'était pas simple de distinguer le vrai du faux. Donc, pur Jean-François Sénéchal, il est là avec vous aujourd'hui. On va sûrement reparler dans cet épisode. Bienvenue cette semaine à cet épisode. J'ai deux collaboratrices avec moi aujourd'hui avec qui je veux parler de ce qui s'est passé au dernier épisode, mais aussi avec qui j'ai envie de m'entretenir d'actualité. Peut-être un banc d'essai. J'ai aussi un invité qui est de l'autre côté de la grande flaque. Vous allez voir un beau groupe aujourd'hui. Gros programme dans cet épisode cette semaine. Ce sera un épisode plutôt libre, actualité, chronique, retour sur d'anciens épisodes. Et pour m'accompagner, je disais qu'ils étaient trois et c'est toujours vrai. De l'autre côté de l'Atlantique, Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? On t'entend pas.
Oui, bon, désolé, beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui, ça va super bien.
Je reprends ma question. Comment ça va, Sylvain?
Ça va super bien. Mis à part les problèmes techniques,
Passez bien, oui. Là, on t'entend. Ça se passe toujours bien, ton aventure au cœur de la France?
Oui, en fait, maintenant, on va entrer dans le nerf du sujet un petit peu plus, là. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans les prochaines semaines, là, il va y avoir des enquêtes qui vont commencer, là, des entretiens.
Bon.
Donc, ça va probablement là, que d'ici la fin juin, ce volet-là va être assez terminé, mais il y a beaucoup de boulot là, pour l'instant.
C'est bien, on lâche pas. Oui, c'est vrai que c'est le cœur, ces entrevues-là. En studio avec moi, elles sont deux. La première, Véronique Tremblay, est là. Comment ça va, Véro?
Très bien, Jean-François.
Est-ce que tu enseignes un peu cet été?
Non, je vais peut-être enseigner l'automne prochain.
Bon. Mais
pas cet été.
OK, profite-en de cette... tu chômeras pas non plus, là, c'est pas comme...
C'est pas comme si je travaillais pas à temps plein.
C'est pas comme si j'avais 3-4 jobs en même temps. La deuxième, elle est en studio. Et là, c'est une première en studio avec nous. Elle a traversé l'océan à la nage pour être avec nous aujourd'hui. Shirley Plumerand est avec nous. Comment ça va?
Ça va bien, et toi?
En studio, j'ai découvert que tu avais des jambes, c'est-à-dire que je te voyais toujours à l'écran. D'un coup, je la croise dans mon bureau, voilà, elle existe entièrement.
Et ouais, je suis là où tout se passe, ça y est.
Qu'est-ce que tu fais dans le coin?
Un petit bol d'air québécois, c'est bien.
As-tu des destinations prévues? Qu'est-ce que tu vas faire au Québec, là?
Ah, déjà, je visite votre belle ville de Québec. Et puis, je profite de vous rencontrer, surtout. Ça, c'est juste génial.
Ben oui, inédit, ce soir, on va aller prendre une bière.
Ouais.
Toute la gang, ça va être vraiment le fun. Est-ce que tu as des objectifs professionnels, personnels, disons professionnels? Qu'est-ce que tu souhaites faire pendant ce périple? À part nous voir, là.
À part vous voir, écrire. Puis rencontrer des gens.
Ben oui. Voilà. Ben voilà, c'est déjà commencé. Ce matin, on avait un bel atelier sur l'intelligence artificielle, un beau groupe qui était là. Écoutez, on va donner un traitement A1 à Shirley là, pour... Le traitement pour tout Français qui débarque au Québec, là, c'est-à-dire la poutine, la nature, les soirées d'amis avec un drôle d'accent. Désolé peut-être pour les skidous, les traîneaux à chiens et tout
ah
ça.
Ah ouais, j'arrive pas. Je regrette vraiment, on en parlait hier soir, de pas avoir de match de hockey.
Mais, ah voilà, donc bon. Prochaine fois, faut que tu viennes en hiver si tu veux vivre tout ça. Peut-être pas les traîneaux à chiens, ça existe juste dans les pubs commerciales pour le Québec. <là. rire> J'ai jamais rencontré personne qui était allé là pour de vrai.
J'ai déjà fait du traîneau à chiens, Jean-François.
C'est vrai, tu m'avais déjà dit ça. Toi.
Oui, j'en ai déjà fait.
Donc, c'est possible.
Oui, c'est possible. Mais ça se peut.
T'es allé seul ou avec des touristes? Ça se peut pas.
Avec les enfants, en fait.
Ah
je
oui, bon.
Ça pas mal le fun.
Ils sont touristes à leur manière. Ils n'ont jamais vu ça. OK, ben, on reprend. Mais peut-être avant de sauter dans le premier bloc d'actualité, vous étiez pas là quand j'ai présenté mes extraits. Rappelez-vous au dernier épisode pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous. J'ai cloné ma voix au dernier épisode. C'est-à-dire, je me suis servi d'un outil en intelligence artificielle pour cloner ma voix à partir de quelques extraits. Puis l'outil en question permettait de prendre ma voix clonée, puis de la plaquer sur des extraits de personnes. Tiens, je pense que je vais vous les représenter, ça va nous mettre dans le bain. D'abord, commençons par l'extrait de Véro, elle est là. Comment le modèle a été construit, ils connaissent l'architecture, ils connaissent ce qu'ils ont ajouté par-dessus par rapport à ce qui a été entraîné sur les données. T'sais, ils connaissent cette architecture-là, puis ils le comprennent. Là où ça peut avoir l'air de « on comprend pas », c'est qu'il y a un caractère probabiliste à ça. Donc, la réponse qu'il va donner, on n'est pas capable d'expliquer exactement pourquoi il a donné cette réponse-là. Mais on comprend comment il est conçu puis comment il arrive à fournir des réponses.
Voilà.
Donc, j'ai jamais été aussi bon en maths de toute ma vie. Je suis meilleur avec quand c'est toi qui parles avec ma voix, Véro.
c'est aussi insupportable que quand on s'écoute parler dans
ouais,
danse.
Ça, c'est classique.
Je t'écoute et je m'entends et je trouve ça insupportable. Je me ouais. trouve insupportable.
C'est comme si tout ce qui nous agace, c'est ça, c'est les petits accents, les tons, nos intonations, nos tics
oui.
de langage.
Oui.
Puis là, on dirait qu'on entend juste ça. C'est-à-dire qu'on entend que c'est une nouvelle voix, mais tous les petits tics de langage sont là, le rythme, le débit.
Mais je te rassure, toi, tu le trouves insupportable, mais il n'y a que toi. Parce qu'on reconnaît effectivement tes variations, tes tics de langage, mais ça n'a rien d'insupportable.
parlons d'extraits insupportables avec un accent.
Ouais, non, là par contre, ça l'est insupportable.
Je
tu peux
pas
le dire,
pour moi.
C'est
toi
okay.
qui me disais ça. Non, mais là, je m'écoutais, je suis pas capable de m'entendre. C'est parti.
Il y a un peu un truc, en espèce, une indifférence, voire un mépris du monde des nouvelles technologies. Alors du coup, je sais pas qui cibler exactement, puisque... on va dire Itekos, hein, voilà. Pour les règles de droit, avec cette fameuse phrase, moi qui ne mourrai qu'il, mais un point, mais c'est inimaginable, il faut pas trop de réglementation à venir.
Voilà. C'est horrible. Oh, insupportable. Oh, insupportable.
Je l'ai écouté avec ma fille, cet extrait-là, en fin de semaine, et je l'ai pendant ses vacances, ben, son séjour ici, habite chez moi. Donc, ma fille a l'occasion d'entendre Shirley, et en écoutant l'extrait, elle a dit, ah, c'est vrai que Shirley dit toujours du coup. Ça a été la première
réaction. Oui, c'est sûr. On a nos tics aussi.
Donc, ma fille l'a reconnu.
Mais je le remarque toujours pas.
Je le dis aussi maintenant, du coup, moi.
Ah, parfait.
Ah,
merci,
voilà.
Sylvain.
Ben oui, il faut parler.
D'ailleurs, je me demande comprendre. Pourquoi ma voix n'a pas été clonée ou il n'y a pas d'extrait avec ma voix.
J'avais peur des représailles. Je me suis dit, il ne sera pas d'accord, il va me faire des représailles. Prochain épisode, c'est une promesse. Ma voix clonée, elle est là, elle existe. J'ai encore mon compte. Sylvain, si c'est une demande, si tu me donnes ton autorisation, parce que ça faisait partie des enjeux aussi dont on a discuté au dernier épisode, je ne l'aurais pas demandé.
Effectivement, et c'est de la donnée biométrique que tu as partagée comme ça, sans notre consentement.
Vraiment.
Mais je te pardonne.
Ben oui, un prof d'éthique, ça fait ça, là. Ça viole le consentement, ça publie des données biométriques. Bon, ben, content que ça vous ait plu. Je pense qu'on a eu de bien belles réflexions là, à la fin du dernier épisode. C'est comme si, à travers cette expérience-là, là, toutes les leçons qu'on avait explorées ou les thèmes qu'on avait explorés pendant nos, je sais pas, je dirais les 20-30 derniers épisodes, là, c'est comme si qu'ils s'étaient encapsulés dans nos analyses après cette expérience. OK, on se lance dans le premier bloc. Je voulais savoir qu'est-ce qui a attiré votre attention, de quoi avez-vous envie de nous parler, chronique, actualité, banc d'essai, chronique libre. On va commencer par Sylvain, qui doit s'ennuyer un peu là, tout seul, si loin. Sylvain, c'est quoi qui t'occupe, de quoi tu as envie de nous entretenir cette semaine?
Ben, en fait, moi, j'avais dans l'idée là, de vous parler d'un livre que je comptais lire prochainement, mais à ma grande surprise, j'ai commencé le livre et il m'est tombé des mains. Alors, je me suis dit, ce serait peut-être pas une bonne idée d'en parler. Et puis, je nommerai pas
le livre. Au sens que c'était pas très bon, c'est ça?
Je me suis vraiment laissé prendre dans la... C'est parce que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, je trouve, là, ici, là, surtout, là, mais dans les médias, dans les commentaires, là, et la personne qui a écrit le livre, là, est assez douée aussi pour vendre un
peu. Fait que là, tu vas nous parler d'un livre, mais tu ne dis pas c'est quoi, là?
Ben, je dirais pas, mais je vais juste dire que ça, il y a le mot techno et politique dans le titre. Et puis, okay. Vous ferez vos recherches pour le reste. Mais en fait, le problème là-dedans, c'est que c'est un livre qui est construit autour de buzzwords, là, des mots un peu, je dirais, fabriqués, là, rafistolés, et puis où on prend, en fait, c'est un vocabulaire assez sexy, assez chargé.
Mais en fait, en arrière de ça,
en arrière de ça, il n'y a pas vraiment de contenu. Et puis, bon, je me suis dit, puisque je n'ai pas été en mesure de le terminer, je me suis dit que finalement, je ne pourrais pas en parler. Et puis aussi, surtout, c'est que c'est un livre qui, essentiellement, ne refait que répéter un peu ce qui a déjà été dans tout ce qu'on peut rassembler, regrouper sous le terme là, de capitalisme, de surveillance, là, c'est-à-dire le modèle économique des grandes plateformes là, d'extraction des données, d'exploitation des données. Je pense que c'est un peu de la redite. Et puis, si le cœur vous en dit et que le sujet vous intéresse, je ramènerai au livre là, de Shoshana Zuboff, là, de Capitaliste de surveillance, parce que c'est essentiellement la même chose. Donc, voilà.
C'est lui. Tant qu'à lire, il faut lire Zuboff.
Il tient pour l'instant, il tient encore la route.
Un classique.
C'est un classique. Et puis, en même temps, je me dis, il y a quelque chose qui me fatigue aussi, moi, dans l'espèce de dans le mode d'édition, c'est beaucoup comme ça, là. C'est-à-dire qu'on essaie on prend un beau titre, des beaux mots-clés, puis après ça, on essaie de vendre le livre en fonction de ça. Puis quand on va un peu en arrière de ça, ben, finalement, ça fait juste répéter ou redire ce qui a déjà été dit à peu près 25 fois, là. Donc, c'est un petit peu agaçant, là. Et puis, c'est essentiellement, je ne parlerai pas de ça.
Dans le monde de l'IA en ce moment, il y a ça, là. Il y a beaucoup de buzzwords, puis on entend souvent. Bon, les biais, ça va, là. On a compris que.
On a fait le tour.
qu'il y a des biais. Ben, c'est-à-dire qu'il faut trouver un angle, des angles comme celui que Véro a notamment adopté, là. Mais c'est ça. C'est juste pour dire qu'il y a des problèmes de biais, puis de consentement, puis de vie privée. Ben, on l'a entendu, là.
Ben, je crois qu'on arrive un petit peu au bout, là, s'en vient des choses intéressantes, justement, un peu plus concrètes, peut-être. Parce que on va pas tourner comme ça en rond autour des. De manière peut-être pas superficielle, c'est pas le mot, mais moi j'ai cette sensation qu'on arrive au bout, hein, pour rentrer vraiment dans ce qui va être intéressant dans quelques temps,
en tout cas on a fait un bout. Continue, Sylvain.
En fait, je pense que je ne suis pas certain qu'on arrive au bout, mais je pense qu'on va arriver au bout au moment où, justement, peut-être l'excitation autour de ce phénomène-là, intelligence artificielle, va s'estomper un petit peu, parce que ça va permettre un peu de faire une sélection ou un triage, en fait. Ceux qui sont un petit peu, sont pas vraiment intéressés par le sujet, qui sont plus là parce que c'est à la mode, parce que c'est populaire, ou parce que peut-être même il y a plus de financement là-dedans en ce moment. Ben, ces gens-là vont suivre le gibier, vont s'en aller ailleurs, et puis ça va laisser finalement un noyau dur de personnes qui sont peut-être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus intéressés pour ces questions-là. Parce que moi, je l'entends souvent. Hein. Je l'entends souvent dire, qu'est-ce que tu as fait avant? Là, on m'explique, là. La personne m'explique c'était quoi le sujet de thèse ou c'était quoi les travaux précédents. Et puis, absolument rien à voir avec l'intelligence artificielle. Ça n'a même rien à voir avec la technologie souvent. Et puis finalement, pourquoi vous êtes allé là-dedans? Ben, ça revient toujours à la même chose. C'est
le financement.
C'est ça. C'est un sujet qui est en vogue. Il y a beaucoup d'argent qui est associé à ça. C'est une manière un peu de me placer ou de me positionner là, dans un sujet qui en ce moment qui est assez chaud, qui est assez hot. Puis moi personnellement.
Puis dans notre podcast aussi, il y en a. C'est-à-dire que si notre podcast, c'était. C'était un protocole expérimental où on faisait des entrevues puis on grattait un sujet là, en recherche qualitative. On parle de saturation, Manil, quand c'est les mêmes thèmes puis les mêmes exposés qui finissent par revenir. Il y a une redondance. Là, on dit, je pense qu'on a fait le tour. Je pense pas comme toi, que Sylvain, qu'on a fait le tour. Je trouve qu'il y a des... En tout cas, dans le podcast, il y a des champs là, qu'on n'a pas encore... qu'on n'a pas encore exploré. On va recevoir bientôt quelqu'un avec le deepfake dans l'industrie de la pornographie. Donc ça, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Le militaire, on n'a pas encore suffisamment fait à mon goût. Mais c'est sûr que, en tout cas, moi, je le sais, là, après, on va faire notre 100e bientôt, là. Quand on va être rendu à 100, on va faire un bon bout, un bon chemin, là.
Et puis, ben, j'avais préparé une autre chose, mais peut-être que ce sera mieux de j'y reviendrai tout à l'heure si on a le temps, là. Sinon, je le garderai pour une prochaine
fois. Ben, je pense que j'aurais envie de te lancer tout de suite, Sylvain. On va enregistrer en deux parties aujourd'hui. Fred va se joindre un peu à nous, donc il va avoir une pause entre les deux. Si je veux te libérer, je pense que je serais curieux d'entendre ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu nous avais préparé?
Ben, en fait, j'ai écouté l'épisode de la semaine dernière, et puis, ben, Frédéric, vous avez parlé, là, de l'armée israélienne avec son module d'IA, là, qui fait un peu de la recommandation, de la suggestion de cible. Mais par contre, en mémoire, je me souviens pas si, est-ce qu'il vous avait dit le nom de cette IA-là?
Le nom, oui, je l'ai pas en mémoire, bouge pas.
Ben, c'est l'Évangile, hein, la traduction de ça veut dire Évangile, donc c'est quand même assez intéressant, là. L'Évangile, c'est la parole.
Tu veux-tu que je te retrouve le nom exactement?
Pardon?
Est-ce que tu veux que je te retrouve le nom?
Ben, c'est un nom en hébreu, donc je sais pas comment on peut le prononcer, mais c'est ce
bon,
que ça
bon, peu importe,
dire.
Je les mettrai dans les notes de podcast.
Et puis en fait, ben moi, j'ai une réflexion qui m'était fait en écoutant l'épisode, et puis ben, c'est ce que je voulais continuer ou poursuivre par rapport à ce qu'il a dit. Ben, je vais vous parler, en fait, ça va m'amener à vous parler d'un autre livre, peut-être, qui est beaucoup plus ancien que celui dont je voulais vous parler et dont je n'ai pas nommé, là. Mais c'est un livre qui s'appelle La théorie de la classe de loisirs, et vous allez voir un peu le lien avec ce qu'on vient de dire aussi par rapport à ça. C'est l'idée, en fait, ce que l'on vient de dire, l'intérêt autour de l'engouement autour de l'IA, là, en fait, c'est ce que je veux discuter avec vous et le lien avec ce que Frédéric disait la semaine dernière, c'est l'idée un peu de consommation ostentatoire là-dedans. Et puis, c'est un concept qui a été développé par un sociologue qui s'appelle...
Consommation ostentatoire, donc
oui,
montrer
consommation
qu'on consomme.
Exactement, et là, c'est l'IA qu'on consomme d'une manière ostentatoire, et je vais m'expliquer... c'est un concept qui vient d'un sociologue qui s'appelle Thorstein Veblen, dans son livre « Théorie de la classe de loisirs » qui est paru, j'ai pas la date, mais à la fin du 19e siècle. Là-dedans, en fait, il explique que les biens de luxe, là, ce que l'on considère comme des biens de luxe, là, par essence, ça ne répond pas à un besoin matériel immédiat. Donc, leur fonction, elle est tout autre. Leur fonction, c'est de fournir à l'acheteur, en fait, une espèce d'exclusivité.
Oui, montrer
que vous avez... Ben oui. Une fois que vous avez cette exclusivité-là, ben, il s'agit ensuite de la faire savoir aux autres. Hein. Pour faire savoir ce que l'on a, on peut le faire par l'affichage, par la vantardise, par la démonstration.
Ouais, j'ai payé assez cher, faut que les autres le savent. Là. Je peux pas me permettre de juste payer sans que les autres le savent. Là.
Exactement. Si les autres ne le savent pas, ben, la fonction, c'est ça, il n'y a pas d'utilité encore. Et cette consommation-là, elle vise un objectif de distinction ou de différenciation sociale. En fait, c'est son propos. Elle cherche à montrer une capacité à dépenser sans compter, sans retenue, en fait. C'est-à-dire une capacité à maîtriser son temps aussi, d'être maître de son temps. Ce qui signale un statut social supérieur. Parce que si vous passez du temps à table, longuement à table, si vous profitez d'œuvres culturelles, si vous pratiquez un sport, si vous voyagez, si vous soignez votre apparence, ça suggère à chaque fois là, la possibilité de jouir d'un temps libre. Et en fait, c'est tout ce que, si vous regardez les pages Instagram, c'est à peu près tout ce que le contenu que les gens publient sur Instagram, ça correspond un petit
montrer
peu.
Montrer qu'on a du temps de libre, c'est bon.
Exactement, du
là,
temps
c'est...
de libre et puis que...
Puis l'IA joue ce rôle-là en ce moment-là. En montrant qu'on consomme l'IA, ça s'inscrit dans cette même lignée-là. Là.
Oui, en fait, les chercheurs qui s'intéressent à ça, s'il y a une fonction d'ostentatoire, mais il y a aussi l'aspect militaire.
C'est vrai.
Mais... Oui. Je vais juste terminer avec Veblen. En fait, son propos, c'est qu'il décrit à son temps la bourgeoisie nord-américaine comme une classe oisive, mais il ne voulait pas dire oisif au sens de paresseux. Là. Ce qu'il veut dire, c'est oisif au sens de capacité à se dédier à des loisirs plutôt que le travail. et la possibilité de consommation improductive de son temps. Ça représente un luxe véritable qui est en fait un bien, une valeur qui est inaccessible à la majorité des gens qui sont occupés à satisfaire leurs besoins essentiels. Et ce que je voudrais faire, c'est transposer cette idée-là, mais pour parler des relations internationales. Souvent, lorsqu'on parle de technologie militaire, ça peut être l'armement atomique ou les porte-avions ou peu importe, vous pouvez prendre plusieurs exemples comme ça, là. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent, plusieurs causes, si on veut, là, qui peuvent expliquer la diffusion de ces technologies-là. Souvent, ça peut être des chocs externes, par exemple des guerres, ça peut être une menace sécuritaire qui apparaît, qui n'était pas là auparavant. Ça peut être un changement géopolitique, une crise internationale majeure qui peuvent accélérer ou contenir la diffusion des technologies militaires. Mais il y a aussi l'importance du facteur psychologique qui est souvent un petit peu moins présent lorsqu'on en parle, comme la recherche de prestige. On peut parler de prestige technologique pour expliquer même l'intérêt des États à acquérir ou non une technologie militaire comme l'IA et comme elle sera appelée à le devenir. Tout simplement parce que vous avez, il y a certaines armes ou certains systèmes d'armes qui sont plus qu'un simple artefact, un simple armement. Ce sont des symboles. Ce sont des symboles de maîtrise technologique, de maîtrise de technologie qui représentent la pointe du progrès. Hein. C'est des technologies de dernier cri. Ça démontre, c'est une preuve de savoir-faire. Ils deviennent donc des marqueurs symboliques qui signalent le rang et le statut des États qui les possèdent. Et donc, la preuve de leur supériorité technologique.
Les États aussi veulent montrer que c'est leur image de marque. Là, nous aussi, en matière de technologie, on maîtrise l'IA. Non seulement on a une flotte navale impressionnante, mais on maîtrise l'arme, entre guillemets, intelligence artificielle.
Exactement. Et il y a des différences quand même, parce que dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, à acquérir, par exemple, que pourrait l'être un porte-avions. Ou que l'ont été les armes atomiques. Parce que ça demande beaucoup moins d'infrastructures. Donc, je veux dire, c'est sans commune mesure avec ça. Donc, elle est appelée à avoir vraiment un bel avenir par rapport à ça. Et on peut prendre un exemple assez rapide qui peut être en lui-même assez parlant aussi. Juste les drones armés, là, les avions qui sont pilotés sans pilote et qui de plus en plus sont pilotés d'une manière autonome aussi, là. En ce moment, vous avez 22 pays qui possèdent des drones armés, et vous avez une vingtaine d'autres qui cherchent à acquérir cette capacité-là. Et en fait, la propagation s'est faite à un rythme très, très rapide, parce que vous en aviez seulement 8 en 2014, ce qui signifie que l'adoption, elle a triplé en l'espace de 6 ans. Là. Ce sont des chiffres de 2021 que j'ai, 6-7 ans. Et là-dessus, vous avez 19 pays qui ont déployé ces drones-là depuis 2010 seulement. Et là-dedans, vous avez 4 pays qui sont des démocraties. Le reste, ce sont des régimes non démocratiques. Mmh. Et il y a un facteur qui explique ça. En 2011, la Chine est devenue un fournisseur assez majeur et crédible aussi. C'est-à-dire que la technologie, elle était au point de drones armés. Et donc, c'est un développement qui a réduit vraiment les obstacles, si on veut, réglementaires du côté de l'offre pour que les pays non démocratiques puissent accéder à cette technologie-là, ce qui a facilité leur acquisition qui s'est fait beaucoup plus facilement que ça aurait pu être le cas avec les démocraties qui ont toujours plusieurs contraintes. Hein. Lorsqu'il y a des transferts de technologies ou lorsqu'il y a des ventes de technologies, il y a souvent toute une série d'obstacles ou de restrictions qui peuvent être associées à ça, le respect du droit international, le respect du droit humanitaire, prise en compte des dommages collatéraux, etc. Il y en a beaucoup. Mm-hmm. Et dans le cas de la Chine, c'est plutôt la politique dont on pose pas de questions là, ou de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays étrangers. Donc, ce qui facilite un peu, finalement, on vous vend la technologie. Ce que vous en faites avec, ça nous regarde pas. Et le faible coût des drones par rapport à d'autres technologies militaires les rend particulièrement attrayants pour les États qui voient là-dedans, en fait, un moyen d'accroître leur statut à peu de frais sur la scène internationale.
Et en même temps, c'est les drones... C'est le même réflexe. C'est les drones, l'IA... montrer à peu de frais notre puissance militaire d'une certaine façon.
Qu'on est dans le club select, dans le club de la modernité militaire, des technologies sophistiquées. Et en fait, c'est le fait d'acquérir ce type de technologie-là, ben, ça permet de signaler à l'audience internationale qu'un pays, ben, il est puissant, il est indépendant, il est technologiquement compétent. Et ben, ça lui permet de montrer qu'ils appartiennent à un cercle un peu fermé. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que le prestige, c'est un moteur puissant pour se doter de l'IA militaire. C'est l'occasion d'acheter du prestige à moindre coût. Et le fait que les États rendent public leur recherche et leur armement augmenté d'IA fournit en réalité des preuves supplémentaires à cette espèce, à l'argumentaire-là que je présente sur le statut. Parce que c'est l'acquisition d'une technologie militaire ne peut conférer de prestige sur le plan international que si les autres États, bien sûr, savent que vous la possédez. Et là, ben, vous pouvez comprendre pourquoi, par exemple, lorsque la Turquie présente ses projets de porte-avions qui seraient éventuellement là, pilotés par des IA avec qui pourraient déployer de porte-drones, qui n'auraient même plus d'avions habités, ou les conférences de presse qui sont faites à chaque fois, qui sont commandées à chaque fois par le Kremlin pour montrer voici une nouvelle arme, voici un nouveau robot qui est piloté par l'IA. Donc on fait de la publicité autour de ça. Ben, vous pouvez comprendre que là-dedans, c'est il y a une question de prestige qui est associée. À ça.
Très intéressant.
Et puis, c'est exactement ce qu'Israël a fait hein, avec son IA aussi. Là, si c'est apparu médiatiquement, je veux dire, il y avait une
eux
raison
avaient peut-être, ouais, eux avaient peut-être leur raison pour que ça coule, que ça sache, montre le prestige, comme tu dis, de maîtriser tout ça. Intéressant le lien. C'est intéressant l'angle que tu donnes aussi, là, l'IA, à quoi ça sert. C'est subtil comme utilisation, mais c'est là aussi, puis on le voit, ben, je le vois en recherche, mais tu parlais de l'exemple militaire, là, comment on dit, moi, je maîtrise, comme chercheur, là, moi, je maîtrise l'intelligence artificielle, j'en maîtrise les enjeux techniques, je suis capable de démontrer que je suis capable de cloner ma voix, en plus, je maîtrise les enjeux éthiques, puis on voit ça dans le monde de la recherche, puis parce que je maîtrise ça, donc, je suis un top, parce que je maîtrise les outils les plus modernes, les thèmes les plus modernes. Même chose dans le militaire. Bel angle sociologique, Sylvain. J'ai vu d'où t'as parti et où t'as atterri encore une fois.
Ah ben oui, parfois, il faut prendre un élan un petit peu plus long hein, pour arriver
ouais,
au
c'est
point
ce que tu fais.
Où on veut.
Je te vois
pas
avant.
Pas aussi long que Shirley de prendre un vol pour aller prendre l'air, mais je dirais...
Ah oui! Non, c'est ça. Je pense que tu le fais souvent avec tes chroniques. Là. Je te vois partir. Je sais pas exactement où ça s'en va. Puis je te suis. Je te fais confiance. Maintenant, je te fais confiance. Ça fait longtemps que tu fais ça. Puis on finit par atterrir à quelque part, à faire du sens puis à retisser quelques liens dans notre tête. Merci, Sylvain. Vas-y, Shirley, tu voulais ajouter quelque chose?
Ah ben, je voulais pas ajouter. Je voulais embrayer sur Sylvain parce que je pense qu'on est très complémentaires. On a rebondi tous les deux. On a voulu rebondir sur ce que disait Frédéric dans l'autre épisode. Donc, je me propose et je m'impose.
Ben
désolée.
Oui, vas-y, c'est ça. Ben là, t'es au micro, tu peux. Il n'y a aucun délai en plus. Tu peux juste sauter
bon,
dans.
Super.
Dans le bain. Qu'est-ce que t'as retenu de l'intervention de Fred?
Ben, en fait, c'était justement pour rebondir sur la thématique militaire et je suis bien contente, j'ai bien hâte de savoir ce que va en penser Sylvain, du coup de ce que je voulais avancer. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle porte-parole de l'Ukraine, Sylvain, je ne sais pas si tu l'as vu, non et ben c'est une... elle s'appelle Victoria Shi et donc la nouvelle porte-parole de l'Ukraine est un avatar généré par intelligence artificielle.
Et ben...
Et voilà. Et bon, bah, ce qui est clair, en tout cas, je pense que c'est pas difficile de le voir. Il y a toute une symbolique dans cette création de la part de l'Ukraine, qui est un pays en guerre. Et bon, si vous vous concentrez rapidement sur l'avatar en lui-même, du coup, Victoria Shi, Victoire, Victoria. Shi, ça veut dire intelligence artificielle si vous le traduisez. Et du coup, l'avatar a été créé à partir d'une personne très populaire en Ukraine. Donc, il y a un petit capital sympathie peut-être aussi qui a été recherché. Et à noter que cette personne a, dans un esprit d'effort de guerre, a consenti bah, les traits de son visage bénévolement,
ah, oui.
Totalement bénévolement, je sais pas comment, ouais, bénévolement,
gratuitement.
Généreusement, en tout
cas. Généreusement, voilà, dans un esprit d'effort de guerre. Et voilà. Et du coup, c'était loin. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très loin d'être anecdotique, d'être une lubie de l'Ukraine, hein, qui aurait éventuellement autre chose à faire. Pas du tout. Alors, la raison avancée officielle par le ministère, c'est de dire que ça permet d'économiser le temps et les ressources du ministère pour laisser aux diplomates, faits de chair et d'os, donc, l'espace pour se concentrer sur d'autres choses dans le même temps, qui sont cruciales dans un moment aussi crucial que les Ukrainiens vivent en ce moment. Et du coup, je pense qu'on peut tout de suite s'arrêter sur cet argument-là, parce que déjà, on peut le relativiser. Une technologie comme ça, tout le monde autour de cette table sait que c'est pas magique. Hein. Donc, qui écrit les textes de Victor Yashin, ne serait-ce que ça? Ensuite, il y a toute une équipe technique au sens large qui est présente derrière, dans l'ombre, pour générer cet avatar. Il a vraiment fallu la construire de toutes pièces. Et aussi, petite chose à noter, quand même, le porte-parole humain du ministère n'a pas été remercié pour autant. Hein, donc, il y a une sorte de doublon. Du coup, je me suis dit, ah, tiens, est-ce qu'il tâtonne, du coup, dans un esprit de réserve, de précaution, on garde quand même notre porte-parole humain, sait-on jamais. Et puis surtout aussi, il y avait cette idée dans cet esprit de précaution, je me suis dit, ouais, est-ce que ils sont pas prudents aussi au cas où la Russie arrive en détournant justement cette incarnation virtuelle pour alimenter toute une désinformation éventuelle, voilà. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et là, je vais rejoindre un petit peu Sylvain sur cette idée d'image.
Tu as déjà rejoint Sylvain, j'espère.
J'ai déjà rejoint Sylvain, bien sûr. Mais
c'est dans la foulée, là.
pour justement sur cette histoire de prestige, sur se montrer, etc.
Mais oui.
Là, clairement, l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment que l'intelligence artificielle participe à la guerre d'image.
Mais oui.
Vraiment. Et vous ouvrez n'importe quel manuel d'histoire, de toute façon, on voit l'importance que peut avoir cette thématique-là dans un conflit. Et je me disais, c'est à la fois, c'est impressionnant d'avoir fait ça, et en même temps, c'est un pari risqué qu'a fait l'Ukraine. Parce que je le disais tout à l'heure, là à l'instant, la Russie pourrait tout à fait démontrer elle-même ses capacités, ses propres capacités, toute sa puissance de frappe en détournant complètement cette technologie mise en avant par l'Ukraine. Oui. D'où le pari risqué. Et si je laisse ça un petit peu de côté, il y a quand même aussi... donc, vous pouvez consulter sur Internet. Il y a une vidéo de présentation de cet avatar.
Comment s'appelle-t-elle déjà ?
Victor Yashin.
Victor Yashin.
Et tu peux, consulter la vidéo qui est en anglais. Mais il y a une version qui existe en ukrainien. Et du coup, là, tout de suite, vous vous dites... Bon, c'est génial, en fait, une technologie comme ça. Parce que c'est d'une facilité déconcertante pour traduire dans n'importe quelle langue à travers le monde. Donc là, vous avez une puissance de communication incroyable, puisque vous pouvez déployer votre porte-parole dans n'importe quelle partie du monde avec la langue parlée dans ce pays. Du coup, là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il y avait quelque chose. Et donc, pour rejoindre vraiment Sylvain là complètement, il y a cette histoire de vitrine, en fait, à travers le porte-parole, la symbolique qu'il y a de cette vitrine.
Ah oui, c'est l'Ukraine qui dit,
nous aussi on est capable. Oui. Et le gouvernement ukrainien s'est exprimé au sujet de cette utilisation, et je cite, a dit « Nous sommes un terrain d'entraînement grandeur nature de l'intelligence artificielle dans la guerre ». Et je crois qu'il serait peut-être temps de prendre un peu la mesure de la phrase, qui je trouve est d'une puissance incroyable. Ouais. Et je serais curieux d'entendre Sylvain justement à ce sujet.
Ben là, Sylvain, c'est un est-ce que vous étiez parlé avant?
Mais
est-ce que
pas.
Vous avez fait ça dans mon dos? C'est... ben non, mais c'est sûr que l'un répond à l'autre. Là, c'est exactement ce que tente de faire l'Ukraine, Sylvain.
Oui, je dirais que c'est le magnétisme de la chronique de Frédéric qui nous a interpellé peut-être d'une manière similaire. Là.
Ah, c'est ça, c'est des grands échecs.
Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, c'est ça. Hein, je pense que le message, là, c'est de la communication. Il y a une question de propagande, d'intoxication aussi de l'information ou de la boucle décisionnelle ou la boucle d'information de l'autre. Là. Mais c'est en fait de montrer le message, c'est de dire pour l'Ukraine, c'est nous aussi, on développe des capacités militaires dignes du 21e siècle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait partie d'une stratégie qui est quand même qui est cohérente, là, qui est globale, là. C'est pas anecdotique, parce que d'un autre côté aussi, ils mettent beaucoup l'accent sur le développement là, de prototypes, des prototypes qui existaient même pas, hein. Je pense aux questions de drones navals, là, qui ont à peu près la dimension d'un canot de sauvetage, et puis qui sont capables de, avec des autonomies quand même assez importantes, là, de même jusqu'à 1000 kilomètres, là, qui peuvent aller frapper des navires qui coûtent des millions de fois de plus, là.
Peut-être à moindre prix que le navire en question, là. Il y a ça aussi dans ce que tu disais, là.
Oui, et l'enjeu aussi là-dedans, c'est, il y a deux choses, en fait. C'est que, un conflit, une guerre majeure, comme c'est le cas entre ces deux États-là, c'est toujours un accélérateur d'innovation. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça peut terminer à la fin, là. Je veux dire, prenons un exemple. Je me souviens du cas de la France, là, qui avait à peu près une centaine de moteurs d'avions, là, lorsque les hostilités commencent au début de 1914. Et puis, à la fin de la guerre, ils ont des milliers d'avions, là. Je veux dire, dans les airs. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant. Et dans le cas de l'Ukraine, l'enjeu, c'est parce que les drones comme téléopérés, opérés par des humains, occupent une place vraiment importante dans ce conflit-là. Ça permet, en fait, c'est les yeux et les oreilles, hein, des deux belligérants. Et l'enjeu qui est associé à ça, c'est que si c'est piloté à distance, ils sont sensibles, vulnérables à des contre-mesures électroniques. C'est-à-dire tout ce qui est de moyens, il y a des machines, il y a des bidules qui permettent de
détecter, les attaquer.
Mm-hmm. Exactement, court-circuiter soit les signaux GPS, soit les transmissions radio, et qui empêchent, en fait, ces engins-là d'arriver ou de faire leur travail.
Une guerre technologique, mais là au sens propre, là.
Exactement. Et si, en fait, intégrer des IA là-dedans, des systèmes de navigation autonomes, pourrait se passer des opérateurs humains, ben là, vous pourriez contourner ces moyens de guerre électronique-là. Donc, vous voyez un peu l'avantage qu'il pourrait y avoir là-dedans. Et donc là, oui, les deux pays sont lancés dans une espèce de course en avant technologique, là. Et dans le cas de l'Ukraine, même, ça, il y a cette porte-parole-là. Et aussi, quelques semaines avant, ils ont annoncé la création d'une première arme robotique indépendante. C'est-à-dire, vous avez l'aviation, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Et maintenant, vous avez l'armée des drones. C'est le premier pays qui fait ça. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que va donner. Mais vous avez ça, et ce qui est intéressant aussi, le parallèle à l'affaire, c'est que l'utilisation des drones actuels, ça rappelle un petit peu les premières utilisations de l'aviation au début de la Première Guerre mondiale.
Oui, je me rappelle que tu avais déjà abordé.
Faire de l'observation, exactement, on s'en sert pour faire de l'observation, on regarde pour faire des cartes, pour faire du repérage. Et puis, éventuellement, vous envoyez des avions pour chasser les avions de l'autre qui fait de l'observation. Et puis après ça, vous avez besoin d'avions de chasse pour vous combattre. Et puis, éventuellement, vous avez besoin des avions aussi pour guider les tirs d'artillerie. Donc, et éventuellement, ça se finit avec des bombardiers. Et puis, vous avez toute espèce d'échelonnement comme ça qui se construit. Je sais pas si c'est la même chose, mais en fait, sur le plan de la communication, on joue un peu sur ces registres-là, là, c'est de vitrine, de montrer qui est un peu le plus à la pointe, le plus avancé.
C'est une belle réflexion que vous avez fait tous les deux, à deux, un dialogue sans vous parler, là, sur c'est ça, le rôle de l'IA, l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais pour cette vitrine-là, là, de montrer la force d'un adversaire par rapport à un autre, ou une utilisation politique de cette façon-là, ou stratégique de cette façon-là. Il y a Véro qui est derrière moi, qui vous écoute attentivement. Je suis curieux merci de vos contributions. Je me retourne vers Véro. Véro, est-ce qu'on reste dans les mêmes thèmes ou on change de thème? Où tu as envie d'aller cette semaine? Banc d'essai, actualité?
Je vous écoutais parler, puis j'essayais de trouver quelque chose pour enchaîner on peut sur aller le ailleurs, même thème, mais j'ai pas, réussi à rebondir sur votre thème. Non, je vous amène ailleurs. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est un article dans la presse. Je remercie mon collègue Vincent de m'avoir montré cet article-là.
Donc, oui, les gens, ils savent, là, qu'on fait ça, fait qu'ils nous envoient des articles. T'en parleras, là. Je vais le lire.
C'était assez intéressant, celui-là. Donc, une application interprète les pleurs de bébés pour aider les parents. Je vous lis l'introduction. Fruit de 3 années d'études cliniques en milieu hospitalier, une application qui utilise l'intelligence artificielle interprète les pleurs des bébés pour proposer aux parents les scénarios les plus probables qui glucose, c'est pleurs.
Bon, enfin, on va comprendre ce qu'ils veulent dire.
Et voilà.
Ils veulent dire trois choses, là, mais on avait besoin d'un appui. La couche est pleine. Je suis fatiguée, j'ai faim. C'est pas mal ça, là.
C'est pas mal ça, en effet. L'application s'appelle Ubenois et ça dit Ubenois giving hope to newborn. Donc,
Ubenois?
Ubenois, U-B-E-N-W-A. J'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Probablement que ça a une signification dans une autre langue, mais je l'ai pas trouvé.
OK.
Mais bon, giving hope to newborn, donc rien de moins. On va donner de l'espoir aux bébés.
Wow.
En interprétant leurs pleurs. Donc, l'équipe CœUR est composée essentiellement d'informaticiens et d'une experte en médecine expérimentale. Avec les conseillers principaux, conseiller scientifique, là, il y a entre autres Duana Prekop de DeepMind qui était à McGill, je pense, avant. Je ne sais pas si elle est encore à McGill, mais maintenant, elle travaille pour DeepMind. Et Yoshua Benzio du Mila. Donc, plusieurs des personnes qui ont conçu cette application-là sont des anciens du Mila. Alors, j'ai décidé d'analyser ça assez rapidement avec les mêmes questions.
Je pensais que tu avais fait un banc d'essai, là, que tu avais...
J'ai essayé.
Attends.
Oui, tu l'as fait.
Ça arrive, attends. Attends, Jean-François. Sois patient.
Non, j'ai testé, je peux enchaîner tout de suite là-dessus. En fait, j'avais pas de bébé sous la main, donc...
J'en ai fait un.
Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai essayé effectivement, mais j'ai donné le défi à mes enfants d'essayer d'imiter le pleur d'un bébé qui fait caca, mais on n'a pas réussi finalement. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé toutes sortes de choses, mais c'était toujours inconfort qui sortait. Donc, ben oui. Bébé inconfort, puis bon, ça pourrait être ça. Mais bon. Ça n'a pas été très, très, très concluant.
Fait que là, vous avez imité des bébés pour voir si l'application fonctionnait, c'est ça?
On s'est amusé.
Oui, et puis c'est-à-dire que tu ne peux pas demander à un bébé de confirmer si c'était bien ça ou pas.
Enfin, oui,
c'est
vrai. Il y a ça. Ce qui m'amène...
Je peux dire n'importe quoi.
Ben exactement. Ce qui m'amène à... j'ai analysé l'application, en fait, avec les questions que je me pose habituellement à chaque fois qu'on lance un nouveau projet d'intelligence artificielle. Donc, premièrement, est-ce que c'est fiable?
Bonne question.
Alors là, je suis allée voir les études qui étaient citées par l'entreprise et puis j'ai trouvé effectivement des études, des méta-analyses sur le lien entre certaines maladies neurologiques et les pleurs des bébés. Donc, il y a visiblement des liens entre les médecins peuvent utiliser ça à la naissance comme un autre signe vital, comme la température, comme un autre signe vital pour analyser les problèmes des bébés. Donc, pour certaines maladies, ça a été démontré qu'on était capable de retrouver quelque chose. Maintenant, quand on regarde les études qui vérifient si ça peut vraiment aider les parents, là, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai trouvé ce qui est cité, c'est un petit poster et puis une étude qui est encore sur Archive et qui n'est jamais passée dans une revue avec comité de lecture. Le poster que j'ai trouvé, il avait analysé quatre causes, donc un pleur spontané. Qu'est-ce que c'est que ça, un pleur spontané? Je sais pas exactement, mais il y avait pleur spontané,
inconfort.
Bon, ils savent pas pourquoi. Okay. Inconfort, faim et un pleur qui est causé par l'examen médical. Donc, c'était les quatre éléments qui étaient analysés. J'ai pas réussi à trouver la performance des modèles, une performance qu'on arrive à interpréter facilement là au niveau de l'exactitude, de combien de fois ils se trompent. J'ai pas réussi à trouver ça. Ce qui était présenté dans l'étude, c'était uniquement des airs sous la courbe ROC, ce qui est très intéressant pour un statisticien, mais qui parle très, très peu à quelqu'un.
Ça me parle.
Je suis contente d'entendre ça, mais il arrivait...
Je vais aller chercher ta voix, là. Je vais te résumer ça, là.
Donc, pas très intéressant, à peu près 102 bébés, je pense, dans l'étude, pas d'études randomisées.
Donc ça, c'est des études qui existaient déjà ou c'est le test avec l'application?
Ils en ont fait, non, ils ont utilisé, ils ont fait cette étude-là pour développer l'application.
Ah oui.
Alors, il y avait des bébés qui pleuraient dans quelques hôpitaux. Ils ont choisi quelques hôpitaux. Il y avait quelques bébés qui pleuraient et c'était le personnel qui notait pourquoi le bébé avait pleuré. Mm. Donc ici, en partant, le pourquoi le bébé a pleuré, je vous ai déjà parlé des biais de mesure.
Ben oui.
Ben là...
Ah, il est fatigué. Moi, quand j'entends ouais, ça autour ça. De moi, c'est les parents disent, il est fatigué, mais moi, j'entends juste, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué, j'ai hâte d'aller me coucher, fait que le bébé doit être fatigué aussi. Là.
Donc, biais de mesure, aller savoir pourquoi le bébé pleurait pour vrai, très difficile à savoir.
On le saura pas, il faudrait rentrer dans sa tête, on se rendra pas là.
Non. Donc, est-ce que c'est fiable?
Ou on le pince, puis là, on est sûr qu'il pleure parce qu'il a mal, mais ça passerait pas au conseil, au comité d'éthique.
Non, ils ont précisé dans l'étude qu'aucun bébé, que les pleurs n'avaient pas été provoqués.
Ah oui, ben oui, faut le préciser.
On est rassuré quand même.
C'est là qu'on est rendu, il faut le préciser.
Donc,
c'est rassurant.
Ça ressemble à ça au niveau de la fiabilité. Ben, pas sûr encore. Je leur laisse le bénéfice du doute. Il y a peut-être autre chose que j'ai pas trouvé, mais sur leur site web, du moins, il y avait rien de plus que ça. Ça m'amène à, OK, on n'est pas certain si c'est fiable. Qui est responsable maintenant? Donc, dans les conditions d'utilisation...
Ubenwa, le nom?
Ubenwa.
OK, ben, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un lien avec Star Wars, mais là... Essayez de voir, là. OK, continue.
Donc, dans les conditions d'utilisation, c'est vraiment précisé que ça peut faire des erreurs, c'est expérimental, et c'est la responsabilité du parent de s'assurer pourquoi son bébé pleure, finalement, de vérifier pourquoi son bébé pleure. Je trouve que c'est un peu facile, hein. On voit totalement. Ça souvent dans les conditions d'application. Là, on envoie la responsabilité à l'utilisateur sans qu'il y ait nécessairement une compréhension de tout ce qu'il y a en arrière de ça. Parce que si on regarde la publicité autour de ça, c'est « Oh, wow, on va t'expliquer comment ton enfant se sent ». Alors, on met toute cette publicité-là et quelque part, dans les conditions d'utilisation, on dit ça fonctionne pas très bien, notre affaire, donc c'est vous qui êtes responsable. Il y a quelque chose qui m'embête un
décalage.
Peu avec cet aspect-là. Donc, ça, c'est le deuxième point qui est responsable. La troisième question, parmi les questions que je me pose, là, c'est est-ce qu'on est en train de remplacer un humain dans un contexte où la relation humaine est importante? Et c'est ici que pense que cette application-là accroche.
Ben oui, c'est le cœur de plusieurs des applications.
J'ai pas d'expertise en communication ou au niveau du développement des enfants, je veux dire, mais j'ai quand même eu deux enfants. Puis, pour avoir eu deux enfants, les premières interactions qu'on a avec un enfant, les premières communications, les premières tentatives de communication avec un autre être humain, l'enfant, il fait à travers ses pleurs.
Ben oui.
C'est les premières fois, il essaye, il pleure, il crie, t'as une réaction, ça fonctionne pas, il pleure, il crie encore.
Il essaye de se faire comprendre.
Il essaie de se faire comprendre. C'est le début de la communication. Est-ce qu'on veut vraiment confier ça à un algorithme? Est-ce qu'on nuirait à l'enfant, au final, dans son développement, dans ses aptitudes à communiquer, en essayant de remplacer ça par un algorithme? Ça m'inquiète.
Drôle d'idée.
Totalement.
Drôle d'idée quand même. Et puis, donc quand on regarde cette application-là, puis qu'on se dit « Ah, ben elle pourrait être utilisée pour détecter des maladies neurologiques à la naissance », on se dit « Fantastique ». Utilisée pour remplacer l'interaction entre le parent et l'enfant dans les premiers mois de la vie, je suis pas certaine là, qu'on s'en va dans la bonne voie avec ça. Puis je suis un peu déçue de voir que la question semble pas avoir été soulevé. J'ai pas vu dans les articles de consultation avec des psychologues, par exemple, ou avec des experts du développement de l'enfant. Finalement, j'ai pas vu ça du tout dans les études. Donc, c'est un peu décevant. Puis je trouve que à un moment donné, les chercheurs, c'est sûr que tu développes quelque chose pour un truc en particulier, mais après ça, de se dire « Ah, ben après, l'utilisation, c'est plus trop mon problème », je pense qu'il y a une responsabilité là quand même du côté des chercheurs de se poser ces questions-là, puis de le mentionner. Là.
Vraiment, c'est comme si les questions fondamentales, tu les soulèves. J'imagine que ça aurait dû être soulevé pendant le processus de création de cet outil-là. C'est intéressant d'un point de vue technique, mais d'un point de vue humain, est-ce qu'on est en train d'essayer de remplacer les premiers dialogues entre l'enfant puis le parent à travers une application qui va nuire? Est-ce qu'on est en train de se substituer aux parents? De la même façon, tu vois, je pensais que quand tu en parlais, on parlait des utilisations scolaires ce matin, donc dans les universités, ChatGPT à l'école, la triche, tout ça. Il y a des utilisations en intelligence artificielle où on tente de la correction automatisée, par exemple, où on tente de tranquillement... Ça serait le fun que les profs puissent... les étudiants ont accès au contenu à travers des outils d'intelligence artificielle. T'as un chatbot qui est là, qui répond à tes questions. Ça va corriger automatique. Oui, mais est-ce qu'on est en train, là aussi, de supprimer la relation entre le prof et l'étudiant? Puis à la fin, ça aussi, ça risque de disparaître. On substitue cette relation-là par un apport technologique quelconque. En tout cas, c'était le parallèle que je voyais.
Oui, et puis il est intéressant le parallèle parce qu'effectivement, je trouve qu'à travers la correction, j'apprends à mieux comprendre mes étudiants puis j'améliore moi-même mon enseignement.
Oui, tu vois, c'est une communication, ouais. La
c'est
correction.
Une, c'est
tu vois
une communication,
où, tu vois où ça chope, où ils n'ont rien compris, où tu aurais dû insister, où si tout était... Moi, j'en ai 200, là, quand ça fait... 90 qui me répondent la même affaire. Je dis, mais écoute, c'est moi qui ai dû le dire.
Ben ou... ouais.
Oui. Tu sais, il y a ça aussi, là. Donc,
Totalement. On a encore le temps ou pas, là, Jean-François?
On peut prendre encore 2 minutes, mais sinon, ben, tu vois, ça fait pas mal de temps déjà.
Sinon, autour d'une bière ce soir, du coup.
On continuera autour d'une bière.
De toute façon, on va faire une deuxième partie. Il y a Fred qui va nous rejoindre, mais ça va me permettre quand même de libérer Sylvain et Véro. D'ailleurs, Sylvain, ben merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
Ça fut un grand plaisir, comme d'habitude, et j'aimerais beaucoup être parmi vous pour la bière qui va suivre,
ouais,
mais malheureusement, ce sera pour une autre fois.
On va se reprendre, ce n'est que partie remise, Sylvain. On ira te rejoindre en France s'il le faut. Véro, merci de... Véronique Tremblay, merci d'avoir passé en studio aujourd'hui.
Ben merci.
Shirley, merci. On se dit à tout de suite pour cette suite. Deuxième partie. Sinon, je me permets déjà de vous dire, on se revoit au prochain épisode ou en deuxième partie. Et d'ici là, ça c'est important comme transition, on rêve toujours et pour toujours de moutons et peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.